Frères et sœurs, les amis, nous arrivons au 18e dimanche du temps ordinaire et je voudrais que nous puissions méditer quelques instants, quelques minutes durant cette méditation ou cette homélie, la première lecture de ce dimanche, le livre de l'Ecclésiaste ou du Coëlète. Coëlète ou Ecclésiaste, c'est exactement le même livre, tiré bien sûr de l'Ancien Testament, mais de toute la série des livres que l'on appelle les livres de sagesse. Alors moi j'aime beaucoup la sagesse dans l'Écriture sainte parce que justement ce n'est pas la sagesse comme le comprennent les hommes, c'est plutôt la réflexion philosophique, le recul sur les choses et sur les personnes pour éviter de juger selon les apparences. Alors nous avons entendu « vanité des vanités, tout est vanité », ce sont les premier mot du livre de l'Ecclésiaste. Mais c'est aussi, j'allais dire, ce qui résume le livre. Le mot « vanité », ici, tu as bien comprendre, ce n'est pas la vanité au sens de ceux qui se mettent en avant ou sont vaniteux, mais littéralement, la traduction veut dire tout ce qui est la buée, du vent. Voilà. C'est-à-dire le vent qui passe, qui souffle et qui poursuit sa route, tout simplement. Donc il faut traduire que tout sur cette terre n'est que du vent, tout passe et on le sait que trop, tout n'est qu'éphémère, provisoire, passager. Oui, tout, presque tout, hein, puisque le livre de l'Ecclésiaste semble laisser planer une sorte de doute qui sera bien sûr à découvrir tout au long de la lecture, puisque nous sommes ici au chapitre premier de ce livre. Donc, il va être fondé, ce livre de l'Ecclésiaste, sur le regard qu'il porte sur la manière, multiple manière de l'homme de se comporter dans ses activités. Tous les efforts qu'il peut faire, en fin de compte, bien souvent inutiles, comme le vent qui passe, des efforts parfois dérisoires pour retenir en définitive que du vent qui passe au travers de ses doigts. Et donc pour appuyer et fonder son propos, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste va prendre l'exemple du roi Salomon en personne, qui peut représenter tout à fait le contenu du livre de cet auteur. Le roi Salomon, homme de pouvoir, homme de gloire, couronné de gloire, mais d'une gloire sans lendemain, parce que nous savons que si son règne a été un règne très important, on sait parfaitement que la finale de son règne a été un échec puisque Roboam, son fils, s'avère incapable de mener une politique de bon sens et de sagesse et le royaume se déchire et c'est pire qu'avant. En plus de ça, l'idolâtrie revient. Donc en peu d'années, la gloire de Salomon a disparu comme le vent et notre auteur peut parfaitement écrire en pensant à lui, et je cite l'Ecclésiaste, « Un homme s'est donné de la peine, il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Que reste-t-il, donc, du règne de Salomon ?» Voilà, donc c'est le corpus, si je puis dire, du livre de l'Ecclésiaste, c'est l'exemple du roi Salomon. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à, peut-être pendant ces vacances, ces congés qui nous restent de ce mois d'août, à vous plonger dans le livre de l'Ecclésiaste, d'une manière ou d'une autre. Alors, que faut-il véritablement retenir de ce que nous avons entendu? D'abord, c'est à la lumière de l'exemple du roi Salomon et de son expérience que le livre de l'Ecclésiaste, du Qohélète, regarde la vie de l'homme sur la terre. Tout n'est que vanité. Bon, on entend ça aussi dans les psaumes, hein. Alors, je me suis dit, bon, ce livre, même si j'aime beaucoup la littérature de sagesse dans l'écriture, peut paraître, au regard de certains d'entre vous, comme étant pessimiste. En effet, mais c'est un apparent pessimisme, car on peut se demander pourquoi l'auteur de l'Ecclésiaste a été retenu dans le corpus, dans le canon des Écritures. En réalité, il y a sous cette apparence de regard plus ou moins désespérant un langage de foi. Dieu est notre Créateur, lui seul et lui seul connaît tous les mystères. Toute recherche de bonheur en dehors de Dieu est vaine. Et lui seul détient les clés de la vraie sagesse. Et en définitive, même si nous ne comprenons pas, et moi tout premier, les mystères de l'existence, nous savons que tout est don de Dieu. Donc, au travers de ce qui peut paraître un pessimisme apparent, apparaît des vrais traits de lumière, la foi en Dieu, qui est sous-jacente au texte, prouvant que l'horizon n'est pas bouché, et nous montrant que la seule véritable valeur au monde, celle qui ne peut décevoir personne, c'est la foi, justement, ou la sagesse, qui est abandon dans les mains de Dieu. Dieu donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie. Les justes, les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu, nous dit toujours le même texte. Donc nous pouvons dire que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut rester entre les mains de Dieu et pratiquer les commandements de Dieu. C'est le seul chemin de véritable bonheur. Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais, nous dit l'auteur du Qohélète au chapitre 8, verset 5. Alors, pour finir, le fin mot de l'histoire, si je puis dire, celle que Dieu seul peut donner, c'est l'humilité. Cette humilité qui consiste à vivre tout simplement notre vie telle qu'elle est, toute petite, en définitive, car que sommes-nous aux yeux de Dieu, mais une vie qui est un cadeau de Dieu. Je vous le dis très souvent, quand je dis et redis tant de fois que nous ne sommes pas l'auteur de notre propre existence, que nous avons la chance et la grâce dans la foi de pouvoir dire que la vie vient de Dieu, et que si elle vient de Dieu, elle est non seulement dans les mains de Dieu, mais elle est dans le cœur de Dieu. Amen.